Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2020. Il fait très beau, je suis à Auray, dans mon petit appartement, et je vais poursuivre la petite histoire de ma vie, si le cœur vous en dit de m'écouter. Et je vous raconterai la période qui va de 1976 à 1989. En 1976, effectivement, j'ai quitté Paris, j'ai quitté la Woolmark, où j'avais eu une vie assez trépidante et pleine d'imprévus, où j'ai fait plein de choses, défilé de mode, me suis occupé de mannequins, etc., etc. Et il était grand temps pour moi de, après cet épisode lourd professionnellement, de partir me reposer. Alors j'avais souhaité m'installer dans le midi de la France. Je quittais Paris, les embarras parisiens, pour m'installer dans le midi de la France. Chose que j'ai faite en achetant une petite maison, une charmante petite maison dans un petit vallon à Olioul. Et Olioul, c'était un petit village ou une petite ville, voyons les choses comme on peut, à côté de Toulon. Et je me suis installé là en achetant une maison neuve dont les combles avaient été isolés avec du goémon. Et le vendeur m'assurait que ces algues-là, mises dans mes combles, me donneraient une bonne isolation. Bon, écoutez, ça n'a pas été très très concluant, parce que cette maison-là, je l'ai revendue assez rapidement. Mais je vous raconterai tout ça. Donc, me voilà arrivé dans le midi pour une année sabbatique, et il se trouve qu'après quelques mois de chômage, 3, si ma mémoire est bonne, j'ai voulu reprendre du collier parce que je m'ennuyais. Et donc, j'ai été embauché par un négociant en matériaux de construction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un négoce en matériaux de construction ? C'est un commerce qui achète et qui vend des matériaux de construction pour les maçons, les électriciens, les plombiers, leur permettant de construire et de participer à la construction des maisons. Dans le voisinage du Var et plus particulièrement de cette charmante ville d'Olioul. Alors j'étais embauché par un monsieur qui s'appelait Beneventi, je le dis avec l'accent italien parce que c'était un Italien, qui a commencé à m'apprendre ce métier. Alors c'est là où j'ai découvert que la brique, les agglos de béton étaient bien bien différents de la laine que j'avais promue dans les années précédentes. Donc je suis resté chez ce monsieur et dans son affaire pendant quelques mois pour apprendre ce métier. Et au bout de d'une petite année, même pas, Monsieur Beneventi, pensant que j'étais fin prêt pour diriger une de ses affaires, m'a emmené à Hyères, où il avait lui-même, avec 3 autres associés, un autre négoce en matériaux de construction, et il m'a mis là et installé là au poste de directeur. Alors, j'étais donc directeur de l'AVEMA, achat, vente, matériaux, AVEMA, dans la périphérie de Hyères, faire vivre cette affaire et la mener à bien de bonne façon. Alors, j'habitais quand même encore à l'époque entre Olioul et Sanary, parce que j'ai déménagé à Sanary, je devais rejoindre tous les jours Hyères. Grosso modo, il y avait une trentaine ou une quarantaine de kilomètres. Et pour ce faire, j'ai acheté une moto. Une moto qui me permettait de faire le trajet bien comme il faut. Mais la moto, c'est casse-gueule. et il m'arrivait de me casser la figure, de tomber sur la chaussée. À cette époque-là, j'emmenais la caisse de ce commerce, tout, comme tout commerce avait une caisse avec des pièces et des billets sonnants et trébuchants, et à chaque fois que je tombais, la caisse se répandait sur la route et les bas-côtés, il fallait donc tout bien récupérer avant de reprendre la moto et pour essayer d'arriver à bon port. Alors effectivement, à ce moment-là, j'ai changé de logement pour quitter ma petite maison dans ce vallon à côté de Toulon et pour habiter Sanary. Là, j'ai loué une maison sur la mer, une jolie petite maison, les pieds dans l'eau. C'est bien simple, hein. Au bout de mon jardin, j'avais la mer. Et la mer, eh bien, quand il y avait un petit peu de vent, un petit peu de mistral, eh bien, envoyait des embruns sur mes carreaux, ce qui fait que très régulièrement, je devais nettoyer les carreaux pour y voir quelque chose et enlever le sel qui s'était déposé dessus. Voilà tout ce qui s'est passé dans cette période-là. Et après une année, je reviens à ma vie professionnelle, après une année dans mon négoce en matériaux de construction, on a constaté, après le bilan, que j'avais perdu un peu d'argent, ce qui était normal. Personne ne m'avait réellement appris le métier. On m'avait confié une affaire avec une quinzaine de salariés, avec des camions, avec un portefeuille de clients, certes, et puis un stock. Et puis au bout d'une année, on s'est aperçu que j'avais un peu perdu d'argent. Alors là, je me suis dit, je vais me faire virer, parce que j'en étais que le directeur, et quand on perd de l'argent, c'est quand même assez malvenu. Eh bien non, je ne me suis pas fait virer. Alors, à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi on m'avait embauché, moi, qui avais fait toute une petite carrière dans le textile, pour revendre de la brique et de l'aglo et du ciment ? Eh bien, j'ai appris incidemment qu'effectivement, on m'avait embauché parce qu'on partait du principe que, n'y connaissant rien, eh bien, je risquais pas de voler mes associés. Bon, alors, je ne l'ai pas volé, certes, mais comme je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, et ces associés-là ont souhaité m'apprendre le métier. Alors, j'ai appris par corps d'État ce qu'était le métier de gros œuvres, le métier de l'isolation, la menuiserie, le carrelage, la plomberie, l'électricité, plus le bricolage. Donc petit à petit, l'année suivante, donc la deuxième année d'exercice pour ma part, j'ai appris à bien faire mon métier, et à bien comprendre un peu comment les choses se passaient. Alors, un négoce en matériaux de construction, c'est pas un petit boui-boui ou une épicerie de quartier, c'est quelque chose qui s'installe, un commerce qui s'installe en zone industrielle. Là, le mien de commerce, il y avait quand même 15 000 mètres carrés. Et petit à petit, j'ai constaté que la nuit et le week-end, j'ai eu des vols. Alors, pas forcément très important, mais j'ai vu les choses s'intensifier. Alors, ni une ni deux, j'ai été dans un refuge, et j'ai, dans ce refuge, pris un chien. Un chien, un énorme chien, que j'avais pris très imposant pour justement faire part à mes voleurs potentiels. Ce chien, qui était plutôt une chienne, s'appelait Tosca. Et Tosca était chargé de veiller sur le commerce, sur ce commerce la nuit ou le week-end, tandis que je n'y étais pas. Il faut dire qu'à l'époque, la mafia arrivait. La mafia italienne est venue s'installer sur le Var. Il y a eu des vols et des trafics en tout genre, et j'en ai fait les frais. Et d'ailleurs, Tosca aussi en a fait les frais, parce que Tosca, elle a été empoisonnée. Je l'ai retrouvée morte un matin. Alors, j'ai décidé de mettre des pièges dans mon négoce. À un endroit, j'ai installé même un canon à grosse aile. Le canon se déclenchait lorsque le voleur passait et accrochait un fil qui était bien caché et marchait sur ce fil, et le canon lui crachait du gros sel dans les pattes. J'ai même retrouvé un peu d'hémoglobine de temps en temps. Voilà, donc la vie était un peu agitée là-bas, et j'ai même eu à vivre l'assassinat de Yann Piat. Yann Piat était une députée du Front National qui a été assassinée en 1994, et parce que elle voulait lutter contre la corruption en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À cette époque-là, de tristes personnages étaient impliqués dans la vie du département, un dénommé Arex, député ou maire de Toulon, je ne sais plus, mais qui a fini en tôle. Bernard Tapie, qui lui aussi a été en tôle. Fargette, c'était le chef des gangsters, quoi. Et bien tout ce petit monde-là vaquait autour de la région toulonnaise, et puis il faisait beaucoup de mal, parce qu'il polluait tout, toute la mafia s'était installée, quoi. Voilà, donc c'était vraiment très préjudiciable aux affaires, parce que les gens n'avaient plus trop confiance, et il a fallu s'armer un petit peu dans ce domaine-là. Alors, petit à petit, l'affaire dont je m'occupais et que je commençais à bien maîtriser les années aidant est devenue une centrale d'achat. Centrale d'achat pour 8 autres négociants qui appartenaient aux associés qui étaient eux-mêmes propriétaires de mon affaire de hier. Donc, ils ont décidé un beau jour que cette affaire de hier allait, outre son activité de négoce, devenir une centrale d'achat. Et là, je me suis vu confier les achats, et l'affaire est devenue, maintenant, très très intéressante. Le job était très intéressant. Cette affaire était entre les mains de Farini, de Beneventi, de Baschieri, tous ces Italiens-là qui s'étaient installés après la guerre et qui, les parents, étaient venus s'installer quittant l'Italie moribonde pour venir en Provence et s'installer là pour y faire de belles affaires. Quant à moi, le petit Parisien, il m'a fallu contribuer à mettre les Provençaux au travail. La Provence travaillait pas beaucoup. La Provence, vivait sur ses lauriers, avec quelques marchés aux fleurs, mais à part ses activités agricoles, on va rajouter à ça la lavande et des choses comme ça. Il n'y avait pas de vraies ressources industrielles, ce qui en faisait son charme aussi, parce que la Côte d'Azur, n'avait peut-être pas besoin d'industrie lourde. Les Provençaux se reposaient sur leur laurier, et il a fallu les inviter à apprendre à travailler. Alors, j'ai fait un petit peu les frais de cela, avec quelques autres qui venaient s'installer dans le Midi, parce que c'était un petit peu la mode, et le Midi avait besoin à la fois de cerveau et puis d'une main-d'œuvre plus spécialisée pour mettre au travail tous ces Provençaux qui souvent se reposaient sur leur laurier. On parle de laurier, mais moi je voudrais revenir un petit peu sur l'agriculture varoise qui tournait beaucoup autour des serres de roses, les roses d'Elbar, vous avez entendu parler de ça, d'œillets et autres lavandes. Là-dessus, la place aussi a été entreprise par des Hollandais. Les Hollandais, spécialisés dans la tulipe, aux Pays-Bas, sont venus s'installer, faute de terrain chez eux, sont venus s'installer dans le Var, où ils ont acheté beaucoup de terres agricoles, sont arrivés avec leur grand camion sur semi-remorque sur lequel ils avaient mis des serres et autres installations hydroponiques agricoles, et les Watipa qui sont venus, qui ont commencé à construire leurs serres. Comme ils n'avaient pas les moyens de se construire une maison, ils habitaient leurs serres. Alors, je ne vous dis pas l'été, quand ça cuisait dehors, comment les serres devaient être invivables pour y coucher, y habiter, voilà. Bon, mais ça fait partie des choses qui ont été vécues, et de l'arrivée, ces Hollandais ont quand même modifié le caractère professionnel. L'agriculture s'est professionnalisée, et les fleurs sont devenues une vraie industrie. Une industrie qui florale, qui ravitaillait les marchés aux fleurs de Nice, d'Olioul, et puis en région parisienne de Rungis. Avec tout ça, eh bien, beaucoup de Parisiens venaient s'installer dans le Midi, et pour y construire leur maison, donc ils travaillaient. Et petit à petit, eh bien, travaillant dans le bâtiment, j'ai vu cette activité gonfler, et le métier et le marché progresser de façon considérable. Mais j'ai vu aussi des choses tout à fait étonnantes. Donc, on voyait naître des lotissements. Dans ces lotissements, moi, négociant en matériaux de construction, je livrais des matériaux. Ces matériaux étaient mis en œuvre pour construire des maisons, et parfois même des maisons préfabriquées. Et j'ai même vu, dans un lotissement à côté de mon affaire, eh bien, une maison se faire démonter pendant un week-end, c'est-à-dire que y a des voyous qui sont arrivés, la maison était construite, tout du moins dans les murs extérieurs, et les cloisons intérieures. Et des gens sont arrivés, sans doute avec de gros camions, parce que... et ils ont démonté toute la maison, ce qui fait que les propriétaires, lorsqu'ils sont revenus le lundi suivant, pour emménager, n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus qu'une dalle en béton, et leur maison s'était évanouie. Voilà. Que dire ? Le Midi, eh bien, le Midi, c'est quand même... c'est là où j'ai connu quand même des climats un peu extrêmes, avec des inondations, quand il pleut pas souvent, mais quand il pleut, toutes les plaines étaient envahies par l'eau. Un beau jour, j'avais même rendez-vous dans un petit bistrot, un Courtepaille, je me souviens, à côté de Toulon. Et je voyais à peine la route. Et par contre, arrivé près de ce petit restaurant, j'ai rangé ma voiture sur ce que je pensais être le trottoir. Et puis je suis descendu, non pas côté route, parce que je voyais pas grand-chose, mais côté passager. Et là, je suis tombé dans un grand trou, qui était en fin de compte un fossé qui était comblé d'eau, et où j'ai pas failli me noyer, le mot est un peu fort, quoi qu'on était en hiver, je suis ressorti de là quand même en triste état, et ce qui fait que j'ai rejoint mon restaurant, où j'ai retrouvé mes amis négociants avec qui j'avais rendez-vous, et je suis arrivé trempé. Alors ça les a fait rigoler. Dans le Courtepaille, je me suis mis en slip, et on a fait chauffer mes vêtements le long de la cheminée du restaurant, et voilà comment s'est terminée cette petite anecdote. Faut dire qu'il y avait que nous dans le restaurant. Voilà. Sinon, dans les activités que j'ai eues, qui m'ont particulièrement intéressé, j'ai vendu des piscines, et notamment des robots nettoyeurs de piscines. Alors, c'était l'époque, les années 70-80, où les gens commençaient à se faire construire des piscines. qu'il pouvait avoir à bon compte. Et par contre, ces piscines, il fallait les nettoyer. Alors, c'est la partie la plus enquiquinante d'une piscine, c'est son entretien. Enlever les feuilles, voilà. Et puis est apparue la technologie avec des robots nettoyeurs. Alors, des espèces d'engins qui faisaient 50 cm par 50 cm, construits avec des chenilles, un peu comme un tank, et puis reliés à un fil électrique. Et voilà, tipa, que le robot partait dans la piscine, et puis il était programmé pour faire des sinusoïdes dans la piscine, aller remonter sur les bords, nettoyer. Bon, c'était bien. Et ça m'a vraiment passionné. Et un jour, participant à une foire, j'ai montré ce robot dans mon stand. Alors, j'avais fait venir une sorte d'aquarium, un aquarium de 1 mètre sur 1 mètre, avec une hauteur de 3 ou 4 mètres, et rempli d'eau, et je mettais mon robot dans l'aquarium, et il montait, il descendait, il nettoyait bien les vitres, etc. On voyait que ça marchait bien. Et là, je me souviens toujours de cette histoire où des tas de gens s'arrêtaient devant l'aquarium, et puis ils regardaient monter et descendre ce robot. Et il y avait notamment une petite dame, une vieille dame, bien mise, habillée un peu comme la reine d'Angleterre, avec des chapeaux verts et des manteaux roses, etc. quoi. Et cette dame, je la vois venir, elle regarde, et puis elle va sur d'autres stands, et puis elle revient, et puis ainsi de suite. Bon. Et ça a duré, le manège a duré quand même un brave moment. Et puis, avec mon copain, avec qui on faisait on participait à cette petite foire pour le compte de notre négoce, eh bien, on vendait des tas de produits phytosanitaires, etc. quoi. Nous étions dans le milieu de l'horticulture, nous étions dans des zones agricoles, donc il fallait s'adapter. Et une dernière fois, arrive la reine d'Angleterre avec son petit chapeau vert et son manteau rose, et puis regarde descendre et monter ce robot dans cet aquarium. Et je m'approche d'elle avec mon copain et je lui dis, voilà, bonjour madame, je vois que vous êtes intéressée, venez voir notre robot nettoyeur, je vois que ça vous intéresse, est-ce que vous avez une piscine ? Oui, j'ai une piscine. Et alors, question, pour descendre dans ma piscine, j'ai un petit escalier en pente douce qui me permet de descendre dans ma piscine. Est-ce que le robot nettoie les marches de l'escalier ? Alors oui, il n'y avait aucun problème, le robot, il allait partout, etc. Et puis, est-ce que ce robot risque pas de quitter la piscine ? C'est-à-dire en remontant les marches, à sortir et aller dans le jardin. Alors là, j'ai mon copain qui regarde cette dame, qui lui dit, dites madame, est-ce que votre mari est chasseur ? Ben oui, mon mari chasse. Beaucoup de gens chassaient, parce qu'on était, dans des terres propices à ça. Oui, il chasse. Eh bien, vous lui dites de sortir son fusil et de lui envoyer un coup de 12 sur le robot. Alors, il s'est trouvé que, bon, ça l'a beaucoup amusé, notre réponse. Il faut dire qu'on était un peu gay, on avait un peu bu. Et à partir de là, eh bien, elle a acheté le robot. Eh bien, des robots, on en avait vendu pendant cette foire une vingtaine ou une trentaine. Et il s'est trouvé que dans les semaines qui ont suivi ces ventes, eh bien, tous les gens nous les ont ramenés parce qu'il y avait un défaut de fabrication. Alors, je ne vous dis pas la difficulté à gérer tout ça, parce que le robot était fabriqué aux États-Unis, l'entreprise qui revendait ça était je ne sais où, aux Pays-Bas ou en Suisse. Et donc, on a fait repartir tous ces robots chez l'importateur. Et voilà, type, oh, bon, ils sont revenus et puis le défaut était réparé et tout s'est remis en route. J'aimais beaucoup aussi vendre des poêles à bois. Des poêles à bois, eh bien, dans le Midi, c'était quand même vraiment propice. On était dans les années 70-80. Les gens commençaient à avoir des maisons qui étaient bien isolées. Et on a fait des poêles à bois qui s'appelaient des insertes, c'est-à-dire des cheminées qui étaient complètement fermées et qui transformaient la cheminée ouverte en cheminée fermée, donc en poêle. Et là, eh bien, on vendait, je vendais beaucoup de ce matériel, et jusqu'à 200 à 300 par an, quoi. J'aimais bien faire ça. Voilà. Sinon, dans ma vie personnelle, eh bien, je me suis marié avec Christine en 1980. Christine était pharmacienne, pharmacienne à Toulon, et j'ai fait sa connaissance, nous nous sommes beaucoup appréciés, on s'est mariés à Fontenay-le-Comte, en Vendée, et nous voilà partis pour un bout de chemin dans la vie et la périphérie varoise. Là, ensemble, on a acheté une maison sur les contreforts de la Sainte-Baume. Alors, la Sainte-Baume, c'était un peu, c'est toujours d'ailleurs, une montagne un peu sacrée avec des grottes dans lesquelles il y avait des anachorètes, avec des moines qui étaient installés là, et on était bien dans cette maison construite au milieu des chênes, on était au milieu des bois. Quand on s'est installé là, j'y ai fait construire une petite piscine. Piscine qui, outre le fait qu'on se baignait, qui était très agréable, qui a servi une fois lorsqu'il y a eu des incendies. Vous savez, le Var a été pendant très longtemps soumis à ces incendies. Les forêts n'étaient pas... les forêts étaient mal entretenues. Et donc il fallait bien se protéger. Et lors des incendies, eh bien les canadaires arrivaient et puis arrosaient tout sur leur passage. Et puis quand ça suffisait pas, ils envoyaient un hélicoptère qui pompait l'eau dans les piscines. Donc dans ma piscine, ils arrivaient avec des grosses suceuses, là, des gros aspirateurs, ils pompaient l'eau pour aller la mettre à droite ou à gauche en périphérie de la maison. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu la nécessité de faire extrêmement attention. Il fallait bien entretenir les terrains et surtout les terrains boisés de façon à pas prêter feu, à pas prêter corps au feu et aux incendies. J'ai acheté un bateau aussi, un bateau à voile. Un bateau à voile sur lequel, eh bien, tous les week-ends, du mois d'avril au mois de... mois d'octobre, Christine et moi, on partait à Port-Crolles, à Port-Croix, au Levant, et on, ou la Vendoue, à Brégançon, à côté du château présidentiel. Et là, tous les week-ends, on partait, on passait du bon temps sur l'eau, c'était bien, c'était agréable, je faisais de la pêche sous-marine. Je ramenais pas beaucoup de poissons parce que j'étais pas très très doué, mais je faisais de la pêche aussi à la palangrotte, etc. Là, c'est pareil, toujours pas beaucoup de poissons, mais on était bien et c'était vraiment du bon temps. Une autre passion m'est née là-bas, c'est le tir sportif. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au tir à la ville d'Hyères, et j'ai gagné un premier championnat en tir au pistolet à air comprimé. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer un archer zen, donc un gars très très bien, qui pratiquait le zen, et notamment le tir à l'arc dans le zen, et qui m'a appris à tirer. Alors, son apprentissage était quand même très singulier, parce que il m'a appris à tirer avec mon pistolet, bien sûr, mais en me disant, voilà, tu as ton pistolet bien tendu dans ton bras, bien tendu devant toi. Tu vas regarder la balle qui sort du pistolet. Et toi, tu vas mentalement t'asseoir sur cette balle. Ensuite, tu vas regarder la cible. Et là, mentalement, assis sur ta balle, tu vas aller te projeter contre la cible. Et ça, ça a été un très très bel apprentissage, une très belle rencontre, et quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien dans mon sport favori. Après, j'ai pratiqué du tir au 22 long rifle, du tir au calibre 38, et enfin à la poudre noire. Vous savez, ces fusils ou ces pistolets qu'on charge par la gueule en mettant de la poudre et puis un plomb avec etc., etc. Et je suis tellement passionné que j'ai pris la direction du stand de tir de la ville d'Hyères, et ce stand était installé chez les militaires. Il y avait une caserne, et c'était les militaires de la caserne qui disposaient de ce stand, et moi j'en étais le directeur pour la partie des tireurs civils. Voilà, vous l'avez compris, c'était une vie trépidante, une vie que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on était bien, on travaillait énormément, on avait des week-ends super sympas sur l'eau, j'ai appris mes matériaux de construction, j'ai appris ce métier qui m'a permis de faire de jolies rencontres, puisque j'achetais des matériaux de construction. J'ai rencontré les PDG des grands fournisseurs français et européens, des cimentiers, des fabricants de plaques de plâtre, des gens qui faisaient des briques et des tuiles, des gens qui faisaient de l'isolation. Et tout ça, ça m'a permis de bien comprendre ce métier et d'en faire le tour. Et j'ai fait le tour de la question, hein, et j'ai appris aussi ce que c'était qu'une, outre les matériaux, une direction financière. J'ai appris à faire tourner une entreprise, à gérer les hommes et les femmes. Et tout cela jusqu'en avril 89 qui m'a... Oula, j'ai été embauché par un nouvel employeur qui s'appelait Big Matt.